Monsieur Blaise Zaka, bonjour.
Bonjour.
Comment amorcez-vous aujourd'hui la question des ONG et du développement en République centrafricaine dans un contexte post-conflit?
Ce thème est très important en ce qui concerne le contexte des ONG. Et quand on parle des ONG nationales, il y a deux concepts qu'on devait réfléchir d'abord.
C'est lequel?
Le concept humanitaire, qui est le concept de la crise, et aussi le concept du développement, ça concerne les ONG qui travaillent dans le domaine du développement. Mmh. Et aujourd'hui, quand on parle de situation des ONG, d'abord, on parle en termes d'architecture des ONG nationales. Nous avons constaté qu'il y a panoplie des ONG en République centrafricaine. Maintenant, structuration au niveau administratif de République centrafricaine, parce que beaucoup de gens veulent aussi travailler. C'est pourquoi ils s'engagent vraiment pour pouvoir créer des ONG. Mais les contextes des ONG sur le plan humanitaire, c'est pendant la crise que nous avons constaté que beaucoup de ONG qui travaillent dans le développement ont eu à basculer sur les actions humanitaires. Donc je prends aussi les cas de notre plateforme qui a été créée en 2012. Pendant la crise, nous avons rencontré beaucoup de partenaires qui veulent travailler en République centrafricaine. Il n'y a pas une structuration au niveau global des ONG nationales. Il fallait
donc
mettre
cela justifie les questions d'impact sur les bénéficiaires dans les zones un peu affectées par le conflit, c'est ça?
Effectivement, parce que vous allez retrouver beaucoup des ONG en République centrafricaine, que ce soit au niveau des préfectures, que ce soit au niveau de sous-préfectures, communes, les gens aussi initiative de créer des ONG. Donc, nous avons beaucoup des ONG qui interviennent dans ce sens. Mais en ce qui concerne les impacts des ONG, moi, je développe ça à deux manières. La première concerne ceux qui apportent l'appui en République centrafricaine, ça veut dire que les ONG internationales qui viennent en appui en République centrafricaine. Et deuxième, ça concerne les ONG qui sont en République centrafricaine, qui aussi donnent aussi des appuis au peuple centrafricain.
Mais quelle est votre collaboration, vous, les ONG nationales et les ONG internationales?
Bon, en ce qui concerne la collaboration, je vois vraiment ce que je vous dis. Il y a pas de collaboration en tant que telle. Mais il y a l'intention de collaboration. Ce qui pose problème, c'est que vous voyez que les ONG internationales viennent avec des assises. Leur gouvernement donne les appuis. Les autorités de leur pays leur donnent les moyens de pouvoir installer. Mais ici, en République centrafricaine, ce n'est pas le même contexte. Aujourd'hui, on crée des ONG à base de rien. La personne s'engage à instaurer cette ONG. Alors qu'ailleurs, par exemple, je prends le cas des ONG européennes. Aujourd'hui, si vous avez les récipicés, l'État vous donne les moyens pour pouvoir installer ces ONG. Et c'est ça qui fait que les ONG internationales viennent avec des équipements, avec des appuis, avec tout ce qu'ils ont comme composition pour pouvoir œuvrer en République centrafricaine. Et en termes de collaboration, ils ne sont pas prêts à collaborer avec nous. Pourquoi? Parce qu'ils voient d'abord leurs compétences, ils disent qu'on n'est pas compétents. Alors qu'aujourd'hui, ceux qui les recrutent en République centrafricaine, c'est des gens que nous avons formés. Vous allez voir que les gens qui travaillent dans ces ONG, de façon des ONG nationales, qu'ils ont des compétences et ils travaillent pour les ONG nationales parce qu'on n'a pas les moyens pour les prendre en charge.
Mais si nous voyons sur le terrain, les ONG sont beaucoup plus la cible des groupes armés, tout ça là. Est-ce que cela affecte réellement le travail des ONG dans leur travail d'apporter des biens et de l'aide à la population qui se trouve dans le besoin?
Ça, on a eu beaucoup de problématiques en ce qui concerne ce cas. Effectivement, les ONG sont des victimes des bandits, hein, des groupes armés en même temps. De fois, c'est les conditions des groupes armés qui leur permettent de prendre ce que nous avons pour pouvoir vivre. Parce qu'on ne sait pas leur objectif, on ne sait pas ce qu'ils font réellement. Donc, ce qu'ils font, c'est quoi? Ça dit, si des occasions avec les matériels que les ONG internationales ont, s'ils ont ça, ça leur permet aussi de vivre. Donc, c'est des gens qui sont démunis aussi. Dès qu'il y a des occasions comme ça ou avec les erreurs, de fois, il y a des erreurs des ONG. Moi, j'ai connu certaines ONG internationales qui en font des erreurs, par exemple, dans la distribution des aides. Si, par exemple, ils n'ont pas bien travaillé dans ces contextes et ça crée des situations dans la zone. Et ces gens, cela profite de ces situations aussi pour pouvoir intervenir. Et de fois, c'est des conditions qui sont dedans. Peut-être, ils n'ont rien dans la zone. Ils ne savent pas, la population sont très pauvres. Et ils se retrouvent vers les organisations qui interviennent dans la zone pour pouvoir piller, détruire tout ce qu'ils ont pour pouvoir survivre. Donc, généralement, il y a beaucoup de problèmes autour de ça.
Plus de 3 millions de personnes vivent aujourd'hui dans une situation précaire et ont besoin de l'aide humanitaire selon l'OCHA. Est-ce que cela vous interpelle?
Ça nous interpelle tous, mais moi, je vois au-delà de ça, parce que si on parle de 3 millions de personnes, vous voyez que toutes ces analyses, ça concerne vraiment les actions humanitaires. Mais aussi, il y a aussi des analystes qui restent, qui n'ont pas encore eu d'évaluation.
Qu'est-ce qui reste, par exemple?
Bon, je prends par exemple le cas d'Ndélé. Vous voyez que dans les périphériques, c'est difficile pour les humanitaires de travailler. Au-delà de 5 km, c'est un peu difficile. Donc, pour avoir vraiment les réels sur les bénéficiaires, c'est au-delà de 3 millions. Moi, c'est ce que je sais, c'est plus que ça. Mais
donc,
les humanitaires...
Donc, selon vous, OCHA a sous-évalué son bilan par rapport à la réalité?
Non, c'est en termes de capacité d'évaluation qu'ils ont présenté. Mais tel que vous voyez la situation que nous vivons en plus centrafricain, au-delà de cet effet, il fallait voir encore avec toutes les dispositions qu'ils ont avec les équipements pour pouvoir évaluer d'autres cas des besoins pouvant intégrer. Donc, les besoins sont énormes. Mais dans l'immédiat, on peut parler de ces termes. Mais vraiment, moi, je sais qu'il y a beaucoup de besoins. Plus que ce qu'on a estimé, il fallait voir au-delà de ça pour pouvoir apporter des aides à ces gens qui sont dans des situations difficiles.
Dans la mobilisation de ressources, les ONG nationales sont loin derrière ces ONG internationales. Quel est vraiment le problème? Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui, par exemple, les ONG nationales à mobiliser les ressources nécessaires qu'il faut pour apporter et se donner beaucoup plus de visibilité?
Bon, ici, à ce niveau, il y a deux problématiques qui empêchent les ONG nationales à y accéder au financement. Des fois, les gens sous-estiment les ONG nationales en termes de compétences. Ça, c'est la première. Et deuxième, deux fois, les gens ne sont pas prêts à donner de l'argent aux ONG nationales direct pour pouvoir faire les activités. Alors, en termes d'appui, vous savez que si vraiment les gens ont la volonté d'aider les ONG, il peut mettre en place des dispositions pour pouvoir orienter ces jeunes des ONG à pouvoir apporter des aides de manière efficace. Mais ce qu'on a constaté, moi, je suis dans l'humanitaire, je sais ce qui se passe. Il y a beaucoup d'enjeux autour de ça. Des fois, c'est la mauvaise foi.
Mais au-delà de la mauvaise foi, on reproche aussi aux ONG nationales la mauvaise gouvernance, la mauvaise gestion des ressources qu'on leur accorde parfois.
Je suis tout à fait d'accord avec vous en ce qui concerne la mauvaise gouvernance. Ça, c'est entre-temps. Mais je vous dis qu'on a constaté depuis 2 ans, 3 ans, les ONG nationales ont manié beaucoup de choses en ce qui concerne. Entre-temps, on ne parlait plus de manuel de procédure. À l'époque, les gens n'ont des fois même pas de documentation en termes d'administration, ceux qui font les aides. Mais aujourd'hui, on a vu que les ONG ont fait beaucoup d'efforts. Et dans cet effort, moi, je sais qu'il y a des financements qui viennent. Par exemple, aujourd'hui, les gens lancent l'appel à projet. Autour de cet appel à projet, ils demandent plus aux ONG nationales en termes d'intérêt, parce qu'on ne sait pas. Et du coup, en termes de mise en œuvre, la personne est obligée de rester à un niveau. Et c'est ça qui fait que ça revient toujours comme faiblesse. Mais en principe, si c'est un bon financement, il y a un mécanisme. Si vous approchez ces ONG, moi j'ai eu à discuter avec beaucoup des ONG. On me demande plus d'argent dans ce truc et je ne peux pas justifier tout. Je suis obligé de passer par ça. Et sur le terrain, ils ont des séries de problèmes. Au niveau structuration, par exemple, de l'État qui devait aussi coordonner, on n'a pas de structure pour pouvoir suivre ces ONG. Comment vous pouvez capitaliser? Et dites à ces gens-là qui disent que les ONG ont un problème de gouvernance de sortir les données. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de problèmes autour de ça. Et je vois, il y a certains financements qui créent des fluctuations entre les partenaires national et les partenaires internationaux qui font qu'il y a beaucoup de problèmes. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il fallait voir autour de ça. Je sais qu'il y a des faiblesses pour les ONG nationales, mais il y en a qui sont là, qui n'ont même pas eu des financements. Mais quand vous arrivez chez eux, ils font un travail formidable.
Monsieur Blaise Zaka, je vous remercie.
Je vous remercie.